Et avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Appelez-nous, exprimez-vous. L'antenne vous appartient. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Et ce matin, nous lançons le débat sur les déboires judiciaires de Jacob Zuma, puisque le président sud-africain va devoir rembourser 450 000 euros à l'État après avoir été reconnu il y a quelques mois coupable d'avoir utilisé de l'argent public à des fins personnelles en construisant dans sa résidence privée, notamment un amphithéâtre, mais aussi un enclos pour bétail ou encore une piscine. Alors, évidemment, en Afrique du Sud, l'opposition se félicite de la décision de la Cour suprême, mais elle affirme que la somme réclamée à Jacob Zuma est trop faible. Selon ses calculs, le montant des travaux s'élèverait à plus de 3 millions d'euros. Alors que vous inspire ce scandale? Quelles conséquences finalement pour Jacob Zuma? D'autant qu'une partie de l'opposition continue d'exiger sa destitution. Nous en parlerons donc tout à l'heure. Vous continuez évidemment à nous rejoindre ici à Paris. 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons à l'antenne. Et on va commencer avec des questions après le triple attentat hier soir à l'aéroport d'Istanbul. Bonjour Regan.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de la République démocratique du Congo, nous vous écoutons.
Oui, Juan, trois hommes ont ouvert les feux à l'aéroport Atatürk d'Istanbul et il y a eu deux explosions sur place. Du coup, je ne comprends pas pourquoi les autorités turques ont directement pointé du doigt Daesh. De quelles preuves disposent-elles? Et puis, Juan, ça fait quand même trois attentats en deux mois en Turquie. Pourquoi la Turquie est-elle devenue une cible du terrorisme?
Ouais, depuis le mois de janvier, c'est même la quatrième fois qu'Istanbul est visée. Bonjour Alexandre Billette. Alexandre Billette, correspondant d'RFI à Istanbul, en direct avec nous. Merci d'être avec nous. Je rappelle rapidement le bilan. 36 morts selon les autorités, près de 150 blessés. À l'heure actuelle, Alexandre Billette, ces attentats n'ont toujours pas été revendiqués. Pourtant, la thèse d'une opération djihadiste, la thèse de Daesh est privilégiée à l'heure actuelle.
Oui, tout à fait, même si, effectivement, Reagan a raison, il n'y a pas de preuves, pas encore, du moins, démontrées de la part des autorités, mais des soupçons de forts indices, comme a dit le Premier ministre Bin Ali Yildirim cette nuit déjà. Pourquoi? Eh bien, parce que le mode opératoire d'hier soir correspond à celui des islamistes de Daesh, c'est-à-dire cibler un lieu public très fréquenté, viser le maximum de civils, le principe de l'attentat kamikaze aussi, qui évoque tout de suite le procédé des terroristes de l'État islamique. D'ailleurs, vous voyez, cet attentat ressemble à celui de l'aéroport de Bruxelles, par exemple, en mars dernier, ou même, on peut dire, aux événements à Paris en novembre, puisque les trois kamikazes d'hier, peut-être avec des complices, et c'est encore incertain, ces trois kamikazes donc ont tiré sur la foule à l'arme automatique, à la Kalachnikov, avant de déclencher leurs explosifs. Ouais. Donc, encore une fois, pas de preuves, mais tout laisse à penser qu'il s'agit de Daesh. On verra bien ce que l'enquête va dire. D'ailleurs, l'enquête, les premiers éléments de l'enquête devraient être rapidement dévoilés. On dit même qu'aujourd'hui, déjà, il pourrait y avoir les premiers détails dévoilé par les autorités turques.
Mais la question de Reagan, notre auditeur, est d'autant plus pertinente que de tous les attentats attribués à Daesh en Turquie, aucun à ce jour n'a été revendiqué par les djihadistes. On peut donc à chaque fois s'interroger sur la pertinence de cette piste djihadiste.
Oui, tout à fait. C'est visiblement une stratégie de la part de l'État islamique de ne pas revendiquer officiellement les attentats qui sont les actions qui sont commises à l'intérieur du territoire turc. En revanche, on voit par exemple que dans les publications de Daesh, les attaques sont de plus en plus fréquentes contre le pouvoir turc. L'État islamique dénonce de plus en plus fermement le régime de Recep Tayyip Erdogan. Il faut savoir aussi que la Turquie compte beaucoup de nombreuses cellules de sympathisants de l'État islamique, des sympathisants turcs, donc, qui ont pour la plupart combattu en Syrie, qui sont pour certains de retour au pays avec justement cette volonté de participer à des attentats suicides, qui était le cas des kamikazes des attentats précédents, et cette branche ou ces groupes donc locaux, disons turcs, qui sont potentiellement prêts à passer à l'action, eh bien constituent une menace terroriste pour le pays, et leur présence de retour de Syrie explique que la Turquie soit devenue cette cible privilégiée qu'elle semble être devenue désormais pour les terroristes de Daesh.
Ouais, depuis un an maintenant, le pays est plongé dans un climat de violence. 200 morts ces 12 derniers mois. Les attentats, effectivement, se sont multipliés. Les réactions sont nombreuses à l'étranger. Le président français François Hollande a condamné fermement, je cite, un acte abominable, tout en appelant à un renforcement de la coopération internationale en matière de lutte antiterrorisme. Réaction similaire à Washington, à la Maison-Blanche. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, réclame lui aussi une coopération internationale accrue. On va suivre évidemment l'évolution de l'enquête avec vous, Alexandre Billette, correspondant d'RFI à Istanbul. Merci d'avoir été avec nous ce matin et merci d'avoir répondu à Regan qui nous appelait de Kinshasa. 10h16 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction. Gaël nous appelle de Bouéa, c'est au Cameroun. Bonjour Gaël.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
Oui, la Cour suprême américaine vient de bloquer le grand projet sur l'immigration de Barack Obama. Ma question est de savoir si cette décision est définitive et pourquoi les républicains s'opposent-ils à ce projet ?
Alors c'est vrai que c'est un coup dur hein, pour Barack Obama, son projet visant à régulariser jusqu'à 5 millions de personnes en situation d'illégalité a été bloqué par la Cour suprême. Bonjour Véronique Guémard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service international d'RFI. Cette décision de la Cour suprême est-elle définitive ?
Alors en fait, normalement, les décisions de la Cour suprême sont définitives parce que c'est la plus haute instance judiciaire des États-Unis. Mais dans ce cas précis, en fait, la décision n'est pas définitive. Alors d'abord, on va faire le point sur la décision. Le Congrès, donc à majorité républicaine, depuis des années, bloquait toutes les décisions sur la réforme du système de l'immigration. Du coup, comme c'était un des engagements de Barack Obama dès 2009, eh bien Barack Obama décide, lui, en décembre 2014, de légiférer par décret, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il peut faire. Alors, plusieurs décrets prévoient donc de mettre à l'abri temporairement des migrants clandestins qui sont aux États-Unis depuis au moins 5 ans, qui ont au moins un enfant citoyen américain et qui ont un casier judiciaire vierge. Cela concernerait donc, vous l'avez dit, entre 4 et 5 millions de personnes. On est loin des 11 millions annoncés au départ. Oui. Mais bon, c'est déjà. Alors, elle pourrait donc ainsi postuler pour recevoir une carte de séjour renouvelable et un permis de travail surtout. Mmh. C'est ce qui compte le plus. Mais 26 États, donc gouvernés par des républicains, décident de ne pas appliquer le décret présidentiel. Et puis, donc, ces États vont saisir différentes juridictions en s'appuyant sur l'argument suivant. Barack Obama a outrepassé son mandat présidentiel en court-circuitant les parlementaires. Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, a même dit que l'article 1er de la Constitution avait été attaqué, que la Constitution était claire. Le président n'a pas le droit d'écrire des lois. Alors, parmi ces 26 États, le Texas, où un juge a donc donné raison à ceux qui ont déposé ce recours. Et donc, la Cour suprême a été saisie pour savoir si ce décret était constitutionnel ou si Barack Obama avait outrepassé ses droits.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure, en introduction, que les décisions de la Cour suprême étaient normalement définitives. C'est-à-dire que Barack Obama peut espérer un changement de décision de la part des juges ?
Alors, le problème, c'est que là, les juges de la Cour suprême ne sont pas au complet. Ils sont... alors, il n'y a pas eu de majorité, puisque ils étaient 4 pour, 4 contre.
Aujourd'hui,
normalement, ils sont 8.
Normalement,
ils sont 9.
Oui.
Voilà, il manque un 9e juge qui est prévu par la Constitution.
Le 9e juge dernier, est mort il y a quelques mois.
Voilà, donc Antonin Scalia est mort et c'était un républicain. Barack Obama, donc, devait nommer un nouveau juge qui a un mandat à vie. Il avait proposé le nom de Merrick Garland qui est considéré comme progressiste modéré. Mais son choix doit être validé par le Sénat, qui est entre les mains des républicains. Et le Sénat, les sénateurs républicains, disent que le choix d'un nouveau juge devrait être fait par le prochain président, parce qu'on est en campagne électorale. Donc, en résumé, la décision de la Cour suprême à 4 contre 4, ce n'est pas vraiment une décision, c'est pas un arrêt tranché. Le fait que la Cour suprême soit bloquée sur une question aussi importante que l'immigration fait que les jurisprudences, en plus, au niveau inférieur, au niveau des États et donc du Texas, sont aussi bloqués. Du coup, en attendant ces décrets, eh bien, ne peuvent pas être appliqués. Et les 4 à 5 millions de personnes risquent l'expulsion, donc qui sont vraiment sur la touche. Donc voilà, on en est là. La Maison-Blanche pourrait demander à la Cour suprême, techniquement, qui n'a pas rendu cette décision, donc de se repencher sur la question. Mais on est en pleine campagne électorale. Et il y a peu de chances qu'elle le fasse.
Oui, et d'ailleurs, après le vote de la Cour suprême, Barack Obama a lui-même reconnu que son projet était gelé jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Pourquoi les Républicains s'opposent-ils à ce projet de loi ?
Alors d'abord, ce n'est pas un projet de loi, c'est un décret présidentiel, donc ce n'est pas possible qu'il soit accepté par le Congrès. Les Républicains s'opposent en fait à une réforme du système de l'immigration, surtout à une régularisation des 11 millions de clandestins qui vivent et travaillent aux États-Unis, dont la moitié sont des Mexicains d'ailleurs. Alors pourquoi ? Ils ont peur surtout de l'appel d'air que cela pourrait provoquer. L'argument est aussi de dire que les clandestins vont prendre des emplois à des Afro-Américains, à des Hispaniques de nationalité américaine. C'est ce que dit par exemple le probable candidat républicain à la présidentielle, donc Donald Trump, qui a ajouté « Nous avons donc un pays et une frontière », c'est ce que confirme cette décision.
Oui, Donald Trump qui d'ailleurs appelle même à la construction d'un mur à la frontière mexicaine.
Voilà, donc le débat sur l'immigration, c'est quelque chose qui le prend depuis le début de la campagne électorale. Donc cette non-décision de la Cour suprême fait que la réforme de l'immigration revient effectivement sur le devant de la scène de cette campagne électorale. Et pour Donald Trump, effectivement, c'est un sujet de campagne. Et voilà, donc on ne sait pas très bien ce que ça va donner. En tout cas, il faudra attendre sans doute la nomination du 9e juge de la Cour suprême.
Et c'est aussi un sujet de campagne pour Hillary Clinton, qui a immédiatement dit qu'elle rejoignait Barack Obama dans ce projet d'immigration. Elle a d'ailleurs qualifié la décision de la Cour suprême d'inacceptable.
Tout
donc voilà, Hillary Clinton et Barack Obama sont vraiment
sur la même ligne.
Merci beaucoup, Véronique Guémard, d'être venue répondre à Gaël, qui nous écoute à Bouéa, au Cameroun, 10h22 à Paris. N'oubliez pas vos réactions dans 20 minutes maintenant sur les déboires judiciaires de Jacob Zuma, puisque le président sud-africain va devoir rembourser de sa poche 450 000 euros à l'État. Et oui, il a utilisé l'argent public pour construire notamment une piscine dans sa résidence privée. Aujourd'hui, on lui demande donc de rembourser. 33 9 693 693 70. Alassane, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Cotonou, au Bénin. On vous écoute.
Ok, j'ai appris que le Burkina Faso va construire une centrale solaire. Alors, j'aimerais savoir si la région du Sahel sera-t-elle indépendante énergétiquement grâce aux panneaux solaires.
Ah, voilà une bonne question, effectivement. Près de 130 000 panneaux solaires vont être posés au Burkina Faso. Bonjour, Pierre Radane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en énergie et climat. À terme, la centrale qui va voir le jour prochainement au Burkina Faso sera la centrale la plus grande du Sahel. Elle sera dotée de 33 mégawatts. C'est évidemment une excellente nouvelle déjà pour le Burkina Faso.
Oui, tout à fait. Alors, elle est à Zaktouli, tout près de Ouagadougou, et elle est censée produire 5% de la consommation électrique nationale du pays, bon, qui n'est pas très très importante. Alors, d'une manière générale, bien évidemment, on assiste actuellement dans le monde à un très très fort développement du solaire, alors avec plusieurs technologies. La plus importante qui existe, c'est celle de Nour, qui est donc au Maroc, qui est la plus grande centrale solaire du monde, et elle est capable d'éclairer, enfin de donner l'électricité à 1 million d'habitants. Donc on est là maintenant vers quelque chose qui est en train de beaucoup se développer, et puis bien évidemment l'Afrique et notamment toute la zone sahélienne a un énorme potentiel.
Alors justement, ce potentiel, tout le monde le reconnaît, encore faut-il que les États et que les bailleurs de fonds soutiennent les projets.
Ben, c'est-à-dire que oui, c'est ce qui est en train de se faire. Dans le monde aujourd'hui, un tiers des capacités électriques additionnelles, donc des centrales nouvelles qui sont mises sur le marché, un tiers, c'est du solaire déjà maintenant. Donc c'est en très très fort développement. Alors bien sûr, cette technologie, il lui a fallu quand même plusieurs décennies, je dirais, pour mûrir, et les prix étaient au départ très très élevés. Et donc pour les pays en développement, développement, et notamment pour les plus pauvres, c'était un obstacle infranchissable. Mmh. Maintenant, les prix ne cessent de baisser, et donc maintenant, ça devient compétitif, et je dirais tous les pays de la sous-région sont en train de développer ces technologies-là. C'est le cas du Sénégal, c'est bien sûr aussi le cas du Bénin, oui. C'est le cas de l'ensemble de ces pays. Alors, d'une manière générale, l'Afrique est dans une situation de pouvoir être autonome à terme, mm-hmm. pour l'ensemble de ses besoins énergétiques à partir des énergies renouvelables. Bien sûr, il y a le solaire, il y a aussi le vent, l'éolien, notamment sur toute la face ouest, je dirais du Maroc jusqu'au Sénégal. Il y a des capacités de géothermie beaucoup dans l'Afrique de l'Est, mmh. Éthiopie, Kenya, etc. Bien sûr, il y a beaucoup de ressources en biomasse. Donc l'Afrique a des potentiels absolument considérables. Et bien sûr, elle sera autonome et elle ne sera pas dépendante d'importations, bien sûr, à partir des pays pétroliers, à partir du moment où elle aura sur ses territoires les ressources nécessaires.
À suivre donc. Merci de cette expertise et de votre expertise, Pierre Radane. Merci d'être avec nous. Alassane nous appelait donc de Cotonou. Nous le saluons, évidemment. On va terminer avec une question concernant les élections de dimanche dernier en Espagne. Adoubé, bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Exactement. Alors, le PP a remporté les dernières élections législatives en Espagne, sans avoir la majorité absolue devant le PSOE et Podemos. Comment expliquer le moins bon score de Podemos et comment parvenir à avoir un gouvernement dans ces conditions?
Ouais, on peut dire que Podemos est effectivement le grand perdant de ces élections. Mathieu Petithomme, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Besançon, vous êtes spécialiste de l'Espagne. Tous les sondages plaçaient Podemos devant les socialistes. Finalement, Podemos est toujours la troisième force politique du pays. Que s'est-il passé?
Oui, en effet. Alors, ces élections de juin montrent que, encore une fois, il ne faut pas véritablement se fier aux sondages. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur pourquoi les sondages se sont trompés, et notamment la peur qu'inspire Podemos chez de nombreux secteurs de la population, notamment chez les personnes les plus âgées. Alors, il faut relativiser un petit peu l'échec de Podemos, puisqu'ils obtiennent malgré tout quand même 71 sièges.
Oui.
C'est surtout le Parti Socialiste...
Enfin, excusez-moi, ils obtiennent... Une seconde, juste une parenthèse, Mathieu Petithomme. Certes, ils ont 71 sièges, ils en avaient déjà 71 après les élections de décembre dernier, mais ils ont quand même perdu plus d'un million de voix en 6 mois.
Bien sûr, oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire aux éditeurs, c'est que, bien évidemment, le grand gagnant de ces élections, c'est Mariano Rajoy et le gouvernement conservateur qui améliorent leurs résultats électoraux avec 136 sièges. Pour autant, au jour d'aujourd'hui, la situation est en fait à peu près la même qu'au mois de décembre, puisque ni un bloc de droite, avec une alliance possible entre le Parti populaire et citoyen, n'ont une majorité suffisante, ni un bloc de gauche. Donc en fait, la paralysie à laquelle on voulait mettre fin avec de nouvelles élections risque de se prolonger, d'autant plus que le Parti Socialiste est lui-même divisé sur ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit soutenir le Parti Populaire avec une grande coalition? C'est très peu probable. Mais en même temps, laisser le Parti Populaire gouverner, c'est très difficile pour lui, puisque d'une certaine manière, ça voudrait dire qu'il aide la droite à gouverner à nouveau. Et d'autre part, il n'y a pas aujourd'hui d'alliance alternative à gauche possible. Alors, il y aurait une alliance possible, mais qui est tout à fait improbable. Et il faudrait allier le Parti Socialiste, Podemos, plus les nationalistes catalans et les nationalistes basques.
Ah oui.
On voit bien que sur la question du référendum en Catalogne, ils ont des positions tout à fait divergentes. Donc une telle alliance, disons, arc-en-ciel,
serait contre nature.
Désirée par Podemos, semble assez improbable au jour d'aujourd'hui.
Donc ça veut dire, en 30 secondes, que ce nouveau vote n'a finalement pas changé la donne. On se dirigera forcément vers une troisième élection?
Alors, pas forcément. De fait, les Espagnols sont tout à fait contre cette troisième élection et veulent que les élites politiques s'entendent. Le problème, c'est qu'on est en une situation où le système politique bipartiste issu de la Constitution de 1978 n'est plus réellement. On a un quadripartisme. Ouais. Mais les forces politiques, en fait, restent sur leur position. Donc
on va suivre ça, évidemment. Ça s'annonce passionnant pour les prochains mois. Restez à l'écoute des RFI.
7 milliards de voisins.